Chapitre 2. Le lendemain matin, bien reposé, Paul et Julien partaient sous la conduite du pêcheur Pagano. Ce dernier avait dépassé la cinquantaine, mais petit et trapu, il semblait d'une force et d'une agilité extraordinaires. Sa figure franche, son air ouvert, presque candide, plurent immédiatement aux deux jeunes gens, et sa conversation, parfois émaillée de mots italiens et de locutions françaises, était facile à comprendre. Ils commencèrent leur excursion par le côté oriental. Un sentier étroit passant sous l'ancien fort Saint-Michele monte vers Il Capo. Il faut une heure environ pour faire ce trajet. Ils ne tardèrent pas à voir l'église Santa Maria del Soccorso sur la hauteur même, puis en face du Cap Campanella, les restes de la plus célèbre des villas de Tibère, celle que l'on nomme maintenant Il Palazzo, qui était dédiée à Jupiter et fut commencée par l'empereur Auguste. Pagano montra un fragment de colonne gisant sur un des côtés du sentier. « L'entrée del Palazzo !»« Et le palais lui-même !» ajouta Julien en désignant une longue et large muraille à moitié ruinée, mais dont les fragments résistaient victorieusement à l'action du temps et aux violences des mauvaises saisons. Quelques chambres subsistent encore, et dans la plus haute loge, un ermite, vivant d'aumônes et faisant la cuisine. Alors nos visiteurs se débarrassèrent de lui, moyennant une honnête rétribution. Paul s'était arrêté pensif devant ces débris. Quelques voûtes crevées par places, des pierres rongées par la pluie, des fragments de mosaïques blanches et noires enfouis sous les ravenelles, les voûtes et les herbes, prouvaient seuls qu'un édifice avait existé en cet endroit. Le jeune poète songeait alors à Tibère, tout-puissant empereur. Tibère, qui de ce rocher inculte et sauvage avait fait un jardin pour y cacher ses débauches. Tibère, orgueilleux César, élevant 12 superbes villas, palais dédiés aux 12 grands dieux et couvrant l'île entière de bosquets, de bois, de forêts. Tibère, construisant des aqueducs pour distribuer l'eau dans toutes ses demeures luxueusement décorées, créant des bains magnifiques, des thermes, des fontaines, et du haut de son palais, palais de Jupiter, et tenant courbé sous le joug de sa terreur le peuple romain, le Sénat, le monde entier. Là, il écrivait ses ordres à Rome, et les sénateurs pâlissaient et tremblaient à la lecture des terribles lettres datées de Capré. Peut-être ses chambres ruinées, dégradées, et s'émiettant en poussière, avaient-elles vu réunis Tibère et Caligula, quand l'empereur manda près de lui ce dernier, alors âgé de 20 ans, et dans le même jour le fit homme, le revêtant de la robe virile et lui faisant couper la barbe. Un monde d'idées étranges assaillait le jeune homme, emporté par la fièvre de son imagination. De cette hauteur, tournant le dos à la mer, il jetait les yeux sur toute l'île. Il cherchait les bosquets d'autrefois, les asiles à Vénus abritant des couples amoureux, les villas magnifiques de marbre et d'or. Sous l'influence d'un mirage, il croyait voir la Caprée du César romain, et Tibère lui-même venait à lui, raide, morose, effrayant. Tibère, promenant dans cette retraite son oisiveté malfaisante et dissolue, abandonnant son ancienne activité et les affaires pour se vautrer dans la boue impure de ses vices. Un cri de Julien l'arracha à cette vision. Le peintre et le guide venaient de s'arrêter au bord d'un effroyable précipice. La falaise présentait un escarpement de plus de 1 100 pieds, 425 mètres séparant le sommet du rocher de l'anse profonde où bouillonnait la mer. « Le sceau de Tibère !» dit Paul, s'approchant d'eux. « L'endroit d'où il faisait précipiter ses victimes, et des yeux il mesurait le gouffre. Suétone prétend, ajouta Julien, que des bateliers, postés en bas, achevaient les malheureux suppliciés. Le récit me paraît de pure invention quand je vois cet abîme. Suétone a-t-il jamais visité Caprée ? Il serait cependant curieux de contrôler ces anecdotes. Et ce sentier à pic qui plonge dans la mer après avoir sillonné la falaise a peut-être, si mal à propos, servi de route à l'infortuné pêcheur dont il raconte la cruelle aventure, à celui dont Tibère fit frotter la figure, d'abord avec un surmulet, ensuite avec une langouste, pour le punir de s'être présenté trop subitement devant lui. Oh, tu as peut-être raison. Et voici l'observatoire du tyran, la retraite où il étudiait les étoiles et la science chaldéenne avec l'astrologue Thrasyle. Deux vers de Stas dont je me souviens en ce moment ferait plutôt croire à un phare. Il dit en termes catégoriques « Telebumque domus trepidis, ubi dulcia nautis, lumina noctivaga et tollit farus aemulla lunae. » La demeure des Télébéens, où le phare émule de la lune nocturne voyageuse, dresse son lumineux foyer pour calmer les terreurs des marins. Tacite corrobore l'assertion de Stas en nous faisant savoir que Capri, possédé par les Grecs, fut aussi habité par les Télébéens. Mon cher, je t'accorde tout ce que tu voudras, n'étant pas assez savant pour discuter avec toi. Je crois au phare, bien que l'observatoire et la magie m'aient d'abord plus vivement attiré, mais laissons là les anciens pour jouir de la vue superbe que l'on découvre d'ici. L'endroit était en effet merveilleux. À moins d'une lieue en face d'eux, le cap Campanella, autrefois dédié à Minerve, s'avançait dans la mer, entièrement revêtu d'arbres et de villas. À leurs pieds, les îlots et les rochers, semés dans le bleu intense de l'eau, le golfe de Naples, et au loin, Sorrente, Castellammare, toutes les villes du Vésuve. Puis, tout au fond du golfe de Salerne, à une très grande distance, apparaissait une côte lointaine, nettement découpée, et un groupe de monuments brillait au soleil avec une forme imposante. « Paestum !» s'écria Julien, et son bras indiquait la silhouette qui se dressait sur le rivage campanien. Ils auraient voulu d'un élan traverser la mer qui les séparait de ces ruines merveilleuses, le temple de Neptune, la Grèce transportée sur le sol italien. « Paestum, la patrie des roses qui fleurissait deux fois l'an. » Paestum, la riche et luxueuse colonie, aujourd'hui la patrie de fièvres épouvantables, le refuge des plus dangereux bandits. Mais qu'est-ce là ? Reprit le peintre, dont l'attention mobile changeait constamment d'objet. Il laissait de côté Paestum et le paysage pour désigner une forme humaine, paraissante et disparaissante entre les rochers de la côte, presque sous leurs pieds, et dans le voisinage du sceau de Tibère. Une femme, je crois, dit Paul, quittant à regret la vue poétique où il planait un instant auparavant. Ah, diable, elle ne craint pas le vertige. Une capriote ? Oh, ce qui va de la vie. Une pierre peut rouler, le pied lui manquait, et le gouffre est sous elle. Ah, elle suit le fameux sentier dont nous causions à propos de Suétone et de l'anecdote du pêcheur. Hé, Pagano, ne vois-tu pas cette femme ? À peine le guide eut-il regardé dans la direction indiquée par les voyageurs qu'il se signa rapidement avec des marques d'effroi. Tu as peur ? Santa Madonna, la maga ! Une magicienne? Que veux-tu dire? Signore, signori, c'est une sirène. Cette fille, si agile, dit plutôt une chèvre. Chut, ne parlons pas d'elle ici. Mais tu es fou, Pagano. Oh, cela porte malheur. Explique-toi. Plus tard, chez moi, à la petite marine, quand vous aurez vu ses sœurs. Il fut impossible d'obtenir autre chose du pêcheur. Cependant, la jeune fille se rapprochait. Bientôt, ils purent voir distinctement ses traits. De son côté, elle s'arrêta, fixant sans aucune frayeur des yeux noirs sur les étrangers. « Par Vénus, mon cher Julien, mais c'est une statue grecque. Quelle tête superbe! Quelle fierté d'allure! Ah, admirable! Le temple d'Érechthée a-t-il laissé fuir une de ses cariatides? Oh, elle revient à des mystères d'Éleusis, des Antestéries ou des Thesmophories. C'est peut-être une canéphore. Parlons-lui. » Et malgré les gestes terrifiés et les supplications de Pagano, Julien et Paul s'avancèrent lentement vers la belle capriote, grande, hardie, les cheveux noirs relevés en couronne sur la tête et traversés par une flèche d'argent, ses vêtements retombant avec une grâce légère autour d'elle, et la jeune fille les regardait venir sans bouger. Sa silhouette purement dessinée sur le fond clair du ciel avait une étrange majesté, quelque chose d'imposant et d'enivrant à la fois par l'attraction bizarre de sa physionomie. Les yeux, très allongés, d'une douceur africaine, semblaient lancer de lumineux rayons à travers la soie des cils épais. La rougeur vivante des lèvres, charnues et bien coupées, contrastait avec le ton de la peau pâle, malgré la couleur dorée que lui avait donné le soleil. Le vent, soufflant avec une certaine violence, faisait voltiger quelques mèches de ses cheveux et accentuait la courbe onduleuse de sa hanche gauche avec une ligne serpentine de la cuisse à l'épaule. Paul la regardait avec une curiosité émue, se sentant invinciblement attiré par cette étrange et superbe créature. Il lui semblait retrouver quelque création de son cerveau, un rêve tout à coup évoqué par une puissance supérieure. Quel pouvoir dans ses yeux, se disait-il, quel enivrement dans les voluptueux contours de ce corps. Pourquoi Pagano n'aurait-il pas raison? C'est une sirène. Une pareille figure, s'écria Julien avec admiration, serait un succès pour le peintre qui pourrait la rendre. Quel magnifique modèle! Les jeunes gens s'étaient arrêtés à quelques pas, n'osant approcher davantage de peur de la faire fuir. Avançant un peu la tête par un mouvement gracieux et naturel, la jeune fille les regarda attentivement, puis, s'adressant particulièrement à Paul Maurem, elle découvrit dans un charmant sourire les mailles de ses dents et, appuyant les deux mains sur ses lèvres, lui envoya un baiser. Moitié charmé, moitié étonné, Paul resta cloué à sa place, tandis que le peintre riait aux éclats. Elle en profita pour s'élancer comme une folle dans le sentier horriblement escarpé qui conduisait à la mer et disparaître en quelques secondes. « Mais la malheureuse va se tuer !» cria Paul, voulant la suivre. « Elle t'a ensorcelé avec son baiser, » dit Julien, en retenant fortement son ami qui allait perdre l'équilibre et rouler dans le précipice. « Ne craignez rien !» ajouta Pagano, qui s'était rapproché. « La Giovanna ne se tuera pas !» Il montra du doigt la jeune fille déjà parvenue au bord de la mer et se perdant derrière les rochers. La singulière fille, reprit le poète, qui cherchait vainement à l'apercevoir encore. Prends garde à la sirène, Paul, elle te veut du bien. On ne craint rien, je saurais résister à son charme. Défends ton cœur contre son amour et ne sois pas aussi sensible à ses baisers. Tu veux rire, Julien, n'y pense même plus. Alors en route, nous avons encore du chemin à faire avant d'arriver à la petite marine. De la tour du phare, on suivait la côte baignée par le golfe de Salerne. Après avoir gravi la petite colline du Tuolo Piccolo, ils se trouvèrent dans une sorte de vallée se dirigeant au sud vers la mer et conduisant à la caverne que l'on appelle la grotte de Mitra. C'est dans les ruines éparses en cet endroit que fut trouvé le bas-relief mitriaque exposé maintenant au musée de Naples. La table de marbre, de 4 pieds de long sur 3 de large, représente Mitra, le génie du soleil en habit persan, accomplissant le sacrifice mystique du taureau. Mais ils ne s'arrêtèrent que peu de temps en cet endroit, à près de 500 pieds au-dessus d'une petite baie semée d'écueils et de rochers. De la vallée, Pagano leur fit gagner une seconde colline, dominée par le télégraphe et formant l'opposé du Tuolo Piccolo, c'est le Tuolo Grande. De cette hauteur, on voyait l'ancien petit port de Tragara, la pointe de Tragara, l'écueil du moine et 3 rochers en pleine mer. La vue était superbe. Sur la colline même, on remarquait quelques restes antiques, des traces d'aqueducs et de routes. Peut-être s'y élevait autrefois une des villas de Tibère. Paul partageait également l'avis de ceux qui pensent que la petite île du moine, sorte d'écueil de 300 pas de périmètre, est la fameuse ville des oisifs, à Pragopolis, d'Auguste, et que les ruines éparses çà et là sont celles du tombeau de son favori Masgabas, mort pendant sa tournée à Caprée. Un sentier rocailleux les conduisit non sans peine ni sans difficulté à 500 mètres au-dessus de la mer, à la pointe de Tragara. Il dominait tout le golfe de Salerne et cette partie de la Méditerranée qui baigne la Sicile et va se perdre sur les côtes d'Afrique. Dans le bleu de la mer se détachaient 3 blocs noirs, 3 écueils. Pagano les désigna aux jeunes gens. « Les sirènes !» dit-il à voix basse, par crainte de voir ses paroles emportées vers elles par le vent. « Ah oui, les sœurs de la jeune fille du sceau de Tibère !» Et Julien lança dans l'air un joyeux rire. « Ne riez pas, signor, si elles vous entendaient !» Le pêcheur se signa dévotement et montra à Paul et à Julien le chemin qu'il fallait prendre pour redescendre vers la petite marine. C'était un passage taillé dans le roc avec des marches en moins. Des trous et des saillies, plus de route. Le pied glissait sur les rochers polis, s'écorchait contre des pointes, et parfois des pierres s'éboulaient tout à coup, entraînant dans leur chute celles qu'elles rencontraient. Le souffle humide de la mer arrivait en plein visage, envoyant ses bouffées salines, et de temps à autre, comme une rosée enlevée par le vent à la crête des vagues. Puis retentissait un bruit solennel, continu, sans interruption, le flot roulant les galets et battant la falaise, et il descendait toujours. Enfin, une éclaircie se fit devant eux. Une baie s'ouvrait dans le rocher, montrant le bleu de l'eau joint à l'azur plus clair du ciel, et au bas du sentier, une petite plage de galets, où la mer venait déferler en petites lames courtes, garnies d'une frange d'écume. C'était la petite marine, une sorte de refuge pour les barques de pêche. Dans la falaise s'enclavaient quelques maisonnettes, et 2 canots étaient tirés à sec. Parfois le vent d'Afrique, le sirocco, arrive terrible et souffle en plein dans la petite marine. Alors les pointes de rochers abritent les pêcheurs et les défendent de la mer. Là, entre deux immenses rochers pointant leurs têtes dans les nuages, se trouvait la cabane de Pagano adossée à un bloc énorme. Le guide s'empressa de conduire les voyageurs sur cette espèce d'avancée et de leur montrer encore les rochers immobiles au milieu des vagues. « Les voyez-vous ?»« Parfaitement, » répondit Julien. « Et maintenant, ami Pagano, ton histoire, nous sommes aussi désireux de l'entendre que toi de la raconter. » La nuit tombait. La course avait été longue et fatigante au milieu de ces montées, de ces descentes continuelles. Les deux amis s'assirent gaiement à la table du pêcheur et partagèrent le repas de sa famille. Quand ils eurent terminé, la femme de Pagano alluma un feu de bois sec dans la cheminée, et les deux amis, la cigarette à la bouche, les pieds à la chaleur, prêtèrent l'oreille au récit du guide. « Il y a 20 ans environ, un matin, nous trouvions sur la plage de la Petite Marine un homme étendu. Le corps, à moitié dans l'eau, moulait un peu à chaque vague nouvelle, avec un mouvement régulier et lent. Mais il était raide, glacé, et autour de lui, pas un débris n'expliquait sa présence en cet endroit. Et nous n'avions entendu parler d'aucun naufrage aux environs. À force de soins, au bout de quelques heures, le malheureux reprit peu à peu connaissance et put nous remercier de l'avoir sauvé et recueilli. Il était napolitain, du moins nous l'affirma-t-il, car personne ici ne le connaissait, et il ne retourna jamais à Naples. Embarqué très jeune, Giovanni Vassa avait beaucoup voyagé, faisant plusieurs fois le tour du monde et passant une partie de sa vie dans les îles de l'océan Indien. Puis un immense désir l'avait pris de revoir l'Italie et il résolut de quitter à l'insu de ses camarades le navire sur lequel il se trouvait. Une nuit, l'occasion se présenta, il s'enfuit sur une petite barque, mais le gros temps lui fit perdre sa route et un courant le jeta sur les rochers voisins de Capri. À partir de ce moment, jusqu'à son retour à la vie au milieu de nous, il disait ne se souvenir de rien. Sa barque avait échoué sur les sirènes. Par reconnaissance, il voulut rester quelque temps ici et nous aider dans notre travail, dans nos pêches. Les jours passèrent. Il ne parlait pas de retourner à Naples. Enfin, après un séjour de 2 mois, il déclara vouloir se fixer tout à fait à la Petite Marine. Avec l'argent de ses économies, qu'il avait eu la précaution de serrer dans une ceinture avant de quitter son navire, il s'acheta une barque et tout un attirail de pêche. Puis, par une bizarrerie que chacun trouva dangereuse et imprudente, il se construisit une petite cabane sur la plage qui regarde les sirènes au pied d'un rocher que la mer baigne parfois pendant les tempêtes. Comme il ne faisait que du bien, causant, pêchant, amusant les enfants par ses contes et les hommes par ses récits de voyage, on s'occupa peu de ses fantaisies excentriques. Il plaisait à tous. Un soir, il partit tout seul, selon son habitude, et mit sa barque à la mer malgré les menaces du temps. On chercha vainement à le dissuader de se mettre en route. Il n'écouta personne et piqua droit sur la haute mer. La tempête fut affreuse. On le considéra comme perdu. Cependant, le matin, quand la tourmente fut apaisée, nous le trouvâmes tranquillement assis devant sa porte, tenant dans ses bras une ravissante petite fille de quelques mois à peine. Il l'embrassait et la regardait dormir avec un sourire de père. Nous restâmes stupéfaits. Mais à toutes nos demandes, il refusa de répondre, disant seulement que c'était sa fille, sa Giovanna chérie. Et même quelques-uns ayant mis de l'insistance à l'interroger, il leur conseilla pour en savoir davantage de s'adresser aux sirènes et du doigt, il montrait moqueusement les 3 rochers. C'était une impiété, un sacrilège. Il en fut puni. Un matin, son corps fut retrouvé sur la grève, tout déchiqueté par les roches et le crâne brisé. Il était mort, et des pêcheurs virent des fragments de sa barque sur les sirènes. Elle s'était vengée. Dans la cabane dormait la petite fille, qui ne parut pas comprendre la perte qu'elle venait de faire. Elle pleura d'abord beaucoup, puis les jours succédèrent aux jours, séchant les larmes sur ses joues roses. Sauvage et craintive, Giovanna ne put jamais se familiariser avec nos enfants. Elle passait des journées entières accroupie en face de la mer, surtout à l'endroit où son père avait habité autrefois, et il fallait l'arracher à ses engourdissements, à cette espèce d'extase, pour la faire manger. Elle grandit, et sa beauté, tout à fait extraordinaire, attira l'attention des jeunes gens de l'île, mais son sourire, son charme, était mortel. Malheur à ceux qui laissent prendre, on ne peut plus résister. Elle fascine, c'est une sirène, comme ses sœurs de la pleine mer. Et le vieux Giovanni Massa a peut-être dit vrai. « Tu plaisantes, Pagano, » dit Paul, qui écoutait de l'air le plus sérieux et le plus attentif le récit du guide, tandis que Julien conservait son air railleur et sa mine incrédule. « Rien n'est plus sérieux, signor Francese, et quelques-uns ont osé aimer la sirène. Eh bien, ils sont morts. »« Bah, ta Giovanna aurait donc la gettatura, » dit Julien en riant. « Non, non, elle n'est pas gettatore, » reprit vivement le pêcheur. Elle charme par sa voix, par ses manières, et entraîne peu à peu dans la mer l'imprudent qui l'a écouté et suivi. Derrière eux, la femme de Pagano, épouvantée d'une semblable conversation et du sujet terrible choisi par son mari, s'était mise en prière devant une petite madone incrustée dans la muraille et éclairée par une veilleuse. « La pauvre fille, » ajouta Julien, est sans doute bien innocente de pareil malheur et vous lui imposez une lourde parenté en l'unissant à ces trois vilains rochers. Vous riez, seigneur, je ne vous conseillerais pas, fussé-je votre mortel ennemi, d'aller lui rendre visite ou même de la rencontrer sur la plage par un jour de tempête. Un jour de tempête ? Interrogea Paul que le récit semblait intéresser vivement. « Ma, povero signor, gardez-vous-en bien par la Madonna. »« Pourquoi ? Perché ?» Et le pêcheur, avant de répondre, fit un grand double signe de croix, ce qui rassura un peu sa femme. « Parce que, lorsque la mer est en fureur et que les vagues sautent en hurlant dans les rochers, les trois sirènes reprennent leurs corps humains. Les rochers immobiles se changent en femmes, bondissent et glissent sur les flots, s'avançant jusqu'au rivage. Là, elles se reposent, causent, jouent et chantent avec leur sœur Giovanna. Alors malheur aux téméraires qui les écoutent, malheur à celui qui les voit, il est perdu. Elles l'attirent peu à peu, par leur chant, par leur voix, à laquelle on ne peut résister. Puis l'une d'elles s'avance vers le malheureux, son enivrant sourire sur les lèvres, les yeux humides des plus ravissantes promesses. S'il cède, c'est fini. Elles l'emmènent, le grisent de leurs caresses et l'emportent au fond de la mer dans leurs terribles enlacements. Peut-être le lendemain, le flot roulera-t-il sur les galets, un corps tout meurtri de leurs baisers mortels, pour qu'une sépulture chrétienne puisse être donnée à cette dépouille inerte. Mais c'est épouvantable, s'exclama comiquement le jeune peintre. Sais-tu, Pagano, que ta description m'a fait froid dans le dos? Cependant, elle m'a donné une envie extraordinaire de m'assurer du fait par moi-même. Comment vous soupçonnez cet enfant? Ajouta Paul avec indignation. Mais tout le monde l'accuse à Capri. Pauvre fille, mais personne prend-il sa défense? Oh, signor, personne n'oserait la toucher ni même l'insulter. Son seul charme fait sa meilleure défense. Allons, Paul, es-tu de mon avis? Veux-tu voir aussi la sirène? Oh, quand ce ne serait que pour réhabiliter Giovanna, je le ferai certainement. Oh, poète, poète, je crois que la sirène a trouvé un vaillant chevalier. Oh, mon cher, cela ne te révolte-t-il pas? Y pouvons-nous quelque chose? Si vous vous croyez assez fort pour résister à l'enchantement des sirènes, reprit le pêcheur, je vous conduirai un jour de tempête derrière un gros rocher qui fait face aux charmeuses. Caché là, vous pourrez tout voir et tout entendre. Mais, je vous en préviens, il y va de la vie, il y va de l'âme peut-être. Et je vous laisserai seul, car rien que d'en parler porte malheur. Acceptez, digne Pagano, répondit Paul. Maintenant, mon cher hôte, montre-nous le tas de varechs qui doit nous servir de lit. Je tombe de sommeil et nous réclamons ton hospitalité jusqu'à demain. Le peintre bâillait d'une terrible façon pour prouver son assertion et appuyer sa fatigue d'un argument expressif à la manière napolitaine. Après leur avoir indiqué leur couchette, Pagano, avant de dormir à son tour, alla joindre ses oraisons aux prières de sa femme, toujours agenouillée devant la Madone. « Santa Madonna, protège-les !» dit le brave homme en terminant, et il jeta un regard sympathique vers le coin où reposaient paisiblement les deux jeunes gens.